Dancing on the people, rolled up happy after joint. Dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people with the people on the people. Smoking CO2, see me, see you dance on the people. Accueillons désormais la formation d'accompagnement éducatif et social en la présence de Nicolas, étudiant à la formation AES, et Barbara, la célèbre formatrice de la filière AES, qui vont venir nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un AES et à quoi ça sert pour les personnes en situation de fragilité ou les enfants. Enfin bref, on va justement vous aller expliquer tout ça. On va commencer par Nicolas. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nous et puis ton parcours avant d'arriver en formation, s'il te plaît?
Bonjour à tous d'abord. Eh bien, on va commencer par mon parcours. Donc, j'ai fait 2 ans en tant qu'auxiliaire de vie à domicile auprès de personnes âgées.
Okay.
Et ensuite, j'ai voulu évoluer et aussi changer de public. Donc, je me suis, rapproché d'un public plutôt en situation de handicap.
Ouais.
Voilà, donc je me suis positionné sur des postes en IME, entre autres.
Ça a été ma Institut première... médico-éducatif.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas.
Ouais.
Donc c'était auprès d'enfants avec des troubles du spectre autistique.
Ouais.
Donc ça a été une révélation un peu pour moi.
D'accord, ouais.
Et puis après j'ai enchaîné aussi d'autres emplacements sur d'autres structures pour voir le fonctionnement.
D'accord.
Et le travail en équipe.
D'accord. Et donc, la formation AES, parce qu'avant, tu étais auxiliaire de vie.
J'étais auxiliaire de vie.
Ouais. Et qu'est-ce que ça te donnait de rentrer en formation d'AES?
Bah déjà, des nouvelles compétences, déjà d'une. Et puis aussi une valorisation en tant que professionnel. Il y a aussi un diplôme d'État qui est important, je pense, dans le médico-social. C'est toujours bien d'être valorisé, en fait, et... surtout sur ce type de poste.
Le poste, oui.
De poste, ouais.
Alors, donc, tu es en formation. La formation, elle dure combien de temps, en tout ?
14 mois, si
14
je me trompe
mois.
Pas.
Tu regardes Barbara qui...
Non. je...
14 mois avec des stages, que des cours ?
Non, des alors cours. Moi, je suis en parcours région, donc j'ai 3 stages à faire.
C'est quoi le parcours région ?
C'est... je suis financé par la région, voilà.
Centre-Val-de-Loire.
Centre-Val-de-Loire.
D'accord. Et donc, tu as 3 stages à faire.
3 stages à faire.
Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas en parcours région.
Non, il y en a qui sont en apprentissage aussi,
ah, oui,
qui peuvent être en apprentissage.
D'accord. Donc là, ils font leur stage principalement chez leur employeur.
C'est exact.
D'accord. Donc toi, tu fais 3 stages dans 3 structures différentes.
C'est ça.
Ok. Et là, tu en as déjà fait combien?
Là, j'en suis à mon 2e.
Ok. Et alors, tu les as fait où, ces stages?
Alors, mon premier stage, ça s'est fait en foyer d'hébergement. D'accord. Pour des adultes déficients intellectuels qui travaillent en ESAT.
D'accord.
Alors, les ESAT, c'est des établissements de soins...
et d'aide par le travail.
Voilà.
Ouais.
Anciennement, les CAT, les centres d'aide par le travail.
Ouais.
Donc, un public quand même assez semi-autonome.
D'accord.
Mon 2e stage, en EHPAD.
Ok. Et lors de ton 1er stage, tu participais à quoi en tant que stagiaire à ES? C'était quoi tes missions un peu?
Alors, mes missions, on était sur leur quotidien pour les aider... surtout au niveau de l'autonomie, et puis gérer leur quotidien et leur appartement, tout ça.
Donc,
les rendez-vous aussi médicaux.
À honorer à se repérer dans le temps.
Aussi, pour certains, ouais. L'espace-temps.
Ouais. Et tu avais des accompagnements, c'est-à-dire tu les accompagnais chez leur médecin, par exemple ou,
Oui, ça m'est arrivé, ouais.
Ouais, ouais. Et quand tu dis leur logement, c'est-à-dire tu leur donnais des conseils ou tu allais à leur domicile?
Je faisais les deux.
Les deux.
On faisait aussi des visites à domicile.
Okay. Et les conseils, ils portaient plutôt sur quoi?
Bah, l'entretien du logement, ouais. L'entretien du linge.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc on prend des temps de parole. C'est aussi de la stimulation verbale pour l'expliquer. Donc après, on a des outils qu'on met en place pour les aider.
D'accord. Et donc là, tu fais le stage en EHPAD, hein, c'est ça?
Là, mon 2e stage, c'est en EHPAD.
Ok. Et donc, tu fais quoi, là, ta journée type?
Journée type, le matin, on les aide au lever, après le petit déjeuner.
Ouais.
On les aide après pour les toilettes.
Ouais.
Et après, on les aide à manger le midi.
Ouais, parce que la matinée est passée, une fois que
t'as... oui. Et puis après l'après-midi, tout ce qui est un peu hydratation. Ouais. On les aide aussi s'il y a des changes à faire. Mmh. Voilà. Après, à 4 heures, il y a collation. Mmh. Et puis, voilà.
Le soir
Le soir, j'ai pas fait de soir encore.
T'as pas fait de soir.
Pas fait de soir. Ouais.
Ok. Et toi, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans la formation? Qu'est-ce qui t'a plu? Enfin, qu'est-ce qui te plaît pour l'instant dans cette formation?
Tout ce qui... ce qui me plaît, bah on va dire tout ce qui est un peu pathologie, tout ce qui est un peu psy, quoi.
Ouais, ouais.
Le côté psychologique, quoi.
D'accord. C'est-à-dire que tu t'es un peu équipé théoriquement pour comprendre ce qui se passait pour les personnes que tu rencontrais.
C'est ça, ouais. Ouais.
Parce que avant, tu c'est quoi la différence entre avant avoir les cours et après avoir les cours?
C'est bien d'avoir de la théorie, mais la pratique, c'est plus concret, on va dire.
Ouais, ouais.
C'est sûr.
Mais la théorie, ça te sert à la pratique?
Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, les deux sont importants. Hein.
Ouais, d'accord. Ok, et comment tu te vois après en tant que professionnel? Tu te vois travailler où? Il te reste encore un stage, finalement.
Il me reste encore un stage que j'ai du mal à trouver, d'ailleurs.
On lâche pas l'affaire.
Donc, non, je lâche pas l'affaire. Je sais très bien que je vais trouver.
Ouais.
Je me vois où après? Ben, je ne sais pas, sûrement peut-être une VAE pour moniteur éducateur.
Ah oui.
J'ai ça en tête en ce moment. Ouais. Et puis,
une VAE, une validation des acquis de l'expérience.
C'est ça, parce que bon, j'ai quand même un petit peu d'expérience. Comme type de structure, foyer d'hébergement peut-être, ou foyer de vie.
D'accord.
Ou même un IME si,
okay.
si je trouve un poste d'AES sur un IME.
Et c'est difficile de trouver des postes d'AES en ce moment?
Non, on m'appelle tout le temps pour faire des remplacements. D'ailleurs, je vais en faire en février.
Ouais.
Donc non, il y a de la demande.
Il y a beaucoup de boulot, quoi.
Il y a du boulot. Ouais. Même hier, ma boîte d'intérim m'a appelé pour travailler à la protection de l'enfance. Donc même sans diplôme, ça recherche quand même beaucoup.
Ouais, je crois avoir entendu parler de petits problèmes de recrutement sur le secteur. Ils ont du mal à trouver des personnes diplômées.
C'est le cas,
ouais. Ok. Merci Nicolas. On va passer la parole à Barbara, qui, en tant que formatrice, est de longue date, hein, il me semble, sur la filière AES.
Ah oui, alors de longue date, alors surtout sur la filière du campus Croix-Rouge, oui. puisque je suis, je suis arrivée à la Croix-Rouge en 2001 en tant que salariée, puisque j'étais étudiante pendant 3 ans avant. En tant qu'assistante de service social, j'ai travaillé pendant... 7 ans sur un service insertion de la Croix-Rouge.
Ah oui, qui existe toujours d'ailleurs, on les salue.
Voilà, pour l'accompagnement des publics avec difficultés sociales, mais aussi professionnelles en termes d'insertion. Et puis j'ai rejoint le pôle formation en 2007 pour avoir la référence pédagogique des auxiliaires de vie sociale qui, après, suite à une réforme en 2016, des diplômes d'État... j'ai eu la référence pédagogique des AES, accompagnants éducatifs et sociaux. Donc les AES, je les accompagne depuis 2016.
D'accord. Et maintenant, on parle d'AES, d'AESH?
Alors, on parle d'AES, accompagnants éducatifs et sociaux. Après, en fait, le fait que ce diplôme ait été réformé, en fait, et relie finalement 3 métiers qui existaient déjà au préalable. On va dire que dans le vocabulaire des professionnels et des structures réside encore l'auxiliaire de vie sociale, l'AMP, l'aide médico-psychologique, et puis après au niveau scolaire, effectivement, l'AESH, hein, qui est malgré tout un poste de l'éducation nationale, même si le diplôme d'État d'AES peut conduire à un poste d'AESH.
D'accord, d'accord.
Voilà.
Mais ça veut dire que les AMP et les AVS n'existent plus ?
Alors, ils ne sont plus, ils existent encore, hein, puisque dans les équipes, on a des AVS et des AMP. Après, on ne forme plus d'AMP ni d'AVS.
D'accord, voilà. Ok. Un jeune qui sort du bac et qui veut occuper ces fonctions-là va forcément passer par la filière AES désormais.
Voilà, désormais, c'est le terme à retenir pour se former.
Ok, et alors, l'organisation pédagogique, ça consiste en quoi pour la filière AES?
Alors l'AES, donc ce que disait Nicolas, effectivement c'est un parcours qui se construit sur 15 mois, 14-15 mois, avec une rentrée en septembre et une fin de formation en octobre. Et c'est une formation qui est construite en semestre, donc il y a 2 semestres. le semestre 1, où en fait on va plutôt aborder les fondements du métier avec voilà, les bases essentielles pour pouvoir ensuite rentrer dans une professionnalisation, dans une construction de sa démarche, dans une analyse aussi de sa démarche sur le semestre 2, hein, où là on sera sur la professionnalisation effectivement des actions professionnelles.
D'accord. Et si je te demande un cas concret pour expliquer à nos auditeurs les compétences d'un AES ?
Alors c'est tellement varié. Comme on va dire que l'accompagnement de l'AES va être vraiment construit selon le degré d'autonomie des personnes. Donc ça peut être effectivement pouvoir intervenir auprès d'une personne qui aurait une déficience intellectuelle, qui serait plutôt autonome d'une certaine façon pour réaliser des gestes du quotidien, mais finalement qui aura plutôt besoin d'un encadrement pour pouvoir s'assurer que les gestes soient réellement réalisés en fait. La personne peut être en capacité de pouvoir faire les gestes, mais elle a besoin d'avoir un appui extérieur pour soit gérer le temps, s'assurer qu'elle a bien mis son linge propre et non du linge sale. Voilà, donc sur cet aspect-là, un petit peu aussi éducatif. Et ça peut être aussi une personne complètement dépendante et qui, là, aura besoin de l'AES pour pouvoir soit faire sa toilette, soit s'habiller, soit manger, en fait. Voilà, c'est vraiment très... Le rôle de l'AES, il est vraiment lié aux besoins de la personne.
Donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'à la fois vous avez la compétence de faire avec les personnes pour pallier à leurs limitations, mais vous avez aussi la place de faire à la place d'eux.
Alors faire pour. Parce qu'on se substitue. Voilà, l'idée, c'est aussi de ne pas se substituer à la personne, mais que la personne, elle garde sa place finalement. Elle est actrice de sa vie. Et voilà, même si la personne n'est plus en capacité de faire, on va essayer au mieux, selon la situation, de pouvoir faire en sorte que la personne, elle soit associée à l'action, qui, même si c'est pas elle qui réalise l'action, on l'associe, ça la concerne elle, et on essaie de l'impliquer au maximum. Enfin, l'AES va essayer de l'impliquer au maximum dans cette action.
Et je vois Nicolas qui a
joué. Oui, c'est tout à fait ça, en fait. On est là vraiment pour les stimuler un maximum, pour que ils soient le plus autonomes dans leur vie future.
Voilà. Et ça va passer aussi par la relation, par l'échange au cours de l'action qui va être réalisée, l'échange qu'on va aussi avoir avec la personne. Voilà, c'est un métier aussi où le relationnel va être très très important. On n'est pas que sur des gestes techniques. Et sûrement, c'est vraiment pas ça ce métier. Oui, il faut des gestes, mais c'est surtout un métier du relationnel avec une prise en considération de la personne et de ses besoins singuliers.
Et alors, la question finale, qu'est-ce que toi, tu attends d'un étudiant fraîchement diplômé ? De quand tu penses qu'on est prêt à se lancer dans le monde du travail, sur cette fonction-là ?
Je dirais quand on connaît son rôle, en fait. Quand on a compris quelle était sa fonction, quand on a compris jusqu'où pouvait aller... Jusqu'où était son action professionnelle et à quel moment on passe le relais ? Parce qu'effectivement, l'AES, ce n'est pas le magicien qui va accompagner sur tous les aspects la personne. À un moment donné, sur des situations, effectivement, il faut que le professionnel sache qu'il n'est plus dans ses compétences et qu'il puisse passer le relais à d'autres professionnels, ou en tout cas associer d'autres professionnels à une réflexion par rapport aux situations. Et puis, c'est surtout ce qu'on attend des professionnels qui sont ensuite diplômés, c'est être en capacité de construire vraiment une démarche professionnelle qui puisse comprendre pourquoi il agit de cette façon auprès de la personne. La mise en sens de sa démarche.
Ok, parfait. Est-ce que on a une question de Mélissa ?
Mais avec plaisir. Alors, j'aimerais savoir, par exemple, dans le cas d'une personne âgée donc, qui entre en maladie d'Alzheimer. Et l'idée, c'est de la maintenir à domicile parce qu'il y a des choses qu'elle n'arrive plus à faire elle-même. Est-ce que là, ça peut être un champ d'intervention pour un AES ?
Alors, oui, effectivement, puisque l'AES intervient sur trois contextes, le domicile, la structure collective, qui sera lieu de vie de la personne, et puis le milieu scolaire. Donc, à domicile, une personne qui serait à domicile et qui aurait... la maladie d'Alzheimer peut effectivement bénéficier de l'accompagnement d'un AES pour rester à domicile en fait et pour accomplir les gestes qu'elle ne peut peut-être plus accomplir seule.
Donc vous expliquiez aussi de bien connaître son rôle, bien connaître son champ d'intervention. Par exemple, dans cette situation-là de maintien à domicile pour une personne Alzheimer, à partir de quel moment un AES, quels signaux vont être pour lui évidents de dire « tiens là, il faut que je passe la main, il faut que j'alerte, là c'est plus possible, c'est dangereux ou... ».
Alors sur cette situation, effectivement, l'AES, il est aussi acteur de la prévention des risques. Donc il doit... Il y a un rôle d'observation assez important hein, sur ce métier et la notion de sécurité. Donc s'il se rend compte que la personne n'est plus en sécurité dans son domicile, qu'elle se met en danger, peut-être que la personne va avoir laissé le gaz ouvert, la personne, la maladie d'Alzheimer, on peut aussi déambuler, ne plus avoir de repères dans l'espace-temps. La personne qui sort de son domicile et qui se met en difficulté, qui peut se perdre, qui peut se faire écraser. Donc voilà, là, effectivement, là, on est sur... il faudra alerter. En tout cas, il va falloir réfléchir à comment on peut garantir aussi la sécurité de cette personne. Du fait de sa pathologie.
Vous avez raison, Barbara. Ça, en fait, au bout d'un moment, quand la personne ne peut plus rester chez elle, faut qu'il y ait un relais.
Oui, donc vous allez devenir des acteurs...
Même s'il y a plusieurs passages dans la journée, au bout d'un moment, c'est plus, je pense que c'est plus possible pour ce type de personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc oui, j'ai aussi des exemples, mais bon, Barbara a cité pas mal d'exemples.
Donc en fait, vous pouvez intervenir à domicile, mais aussi en établissement.
Exact.
C'est ça.
J'ai une dernière question, parce que tout à l'heure, tu as mentionné le fait que tu as aimé travailler avec le public autiste. Est-ce que tu aimerais expliquer c'est quoi les spécificités de ce public-là, en fait, de quoi ils ont besoin et du coup, toi, dans ton rôle d'AES, qu'est-ce que tu leur proposais?
Question un peu compliquée. Donc, c'était des enfants qui avaient des TSA. Donc, le plus gros problème, la gestion
TSA,
des...
TSA, trouble du
spectre autistique. Le plus difficile, la gestion des émotions, je dirais, et puis en fait tout ce qui est relationnel en fait avec leur père, quoi. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Alors après, mon rôle, c'est tellement compliqué que c'est vraiment du cas pas. Pour cas. Donc,
excuse-moi, c'est juste peut-être imaginer que nos auditeurs n'ont jamais rencontré ces enfants. En fait, ils ne savent pas du tout parce que tu dis ils ont peut-être des problèmes dans la relation à l'autre. Est-ce que tu veux juste donner des exemples en fait parce que des gens qui n'ont jamais rencontré des enfants comme ça vont pas comprendre forcément de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça peut être?
Dans l'interaction, dans l'interaction avec les autres, dire bonjour. Se présenter, ce genre de choses. Rien que ça, déjà, c'est compliqué. Sortir aussi, tout ce qui est les changements de lieu. Dès qu'il y a quelque chose, en fait, qui change de leur ordinaire, ça les angoisse. Donc, tout ça, c'est des facteurs qu'on peut mettre sur ce genre de troubles.
Donc là, en fait, on comprend bien tout l'intérêt de l'accompagnement que tu peux proposer. Par exemple, si aujourd'hui, je dois emmener telle personne à un rendez-vous. Donc là, ça change le planning habituel. C'est un endroit peut-être inconnu. Ouais. C'est rencontrer quelqu'un d'inconnu. Donc ça peut être, par exemple, une situation où tu interviens.
C'est un de mes rôles aussi, ouais. Un rôle et aussi une demi-mission, ouais. Exact.
Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu dis au jeune? Comment si tu sens qu'il est angoissé, comment tu peux...
Je prends un temps de parole avec lui, puis si je vois qu'il est trop angoissé pour son rendez-vous, je vais l'accompagner, quoi. Soit en voiture, soit en bus, mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais.
Je t'embête pas plus, merci.
Tu m'embêtes pas.
Ça me semble intéressant qu'on comprenne bien en fait comment tu travailles avec ces publics.
Ok, eh bien, je vous remercie déjà de nous avoir apporté les précisions sur l'évolution de toutes ces petites formations qui sont venues à la fois à domicile et en établissement accompagner des publics en difficulté, en situation de dépendance. Et Barbara, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais aussi rajouter quelque chose, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souligné aussi cette dimension du métier, c'est que c'est aussi un professionnel qui va être un acteur concernant l'inclusion sociale aussi des publics, et notamment pour permettre à la personne, oui, d'être, il est présent dans le quotidien des personnes au niveau du lieu de vie, mais c'est aussi un professionnel qui va être aussi un lien pour que la personne puisse avoir vraiment une place dans la société, sur le plan des loisirs, sur le plan culturel. Donc il a aussi ce rôle-là, donc il va pouvoir aussi monter des projets avec les personnes pour pouvoir aussi s'inclure dans la cité, en fait. Donc ça, c'est aussi important, c'est un des rôles aussi de ce professionnel.
Un rôle important, on n'en a pas parlé. Mais
Ok, aussi dans le projet et les différentes formes d'inclusion.
On est garant, en fait, de ça.
D'accord. Avec une équipe pluridisciplinaire, j'imagine.
Bien sûr, tout à fait.
Ok. Mélissa, une autre question.
Pardon, une dernière question. Donc, si jamais un ou une AES travaille avec tel public, se dit « j'aime beaucoup travailler avec ce public-là, j'aimerais avoir plus de connaissances », est-ce que c'est possible, par exemple, de faire un DU ?
Alors, bonne question. Alors, si peut-être...
Histoire de vie, non ? C'est un diplôme universitaire. Je sais que j'ai une ancienne collègue qui a fait ça.
Oui, alors, sauf que ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que ce diplôme d'État, c'est un niveau 3,
oui.
Donc niveau BEP et CAP. Alors après, pour accéder après à un DUT, il faut peut-être avoir quand même...
C'est un diplôme universitaire, en fait.
Oui, je sais pas, il faut peut-être le bac pour pouvoir accéder à ce diplôme universitaire. Donc après, ça dépendra si la personne... Parce que dans nos promotions, on a des personnes qui ont le bac ou non. Donc après, tout dépendra si la personne a cette équivalence. Mais bon, voilà. Après, il faudra peut-être se rapprocher de l'IUT pour en être sûr.
Mais non, parce que, en fait, je me demandais si une personne a exercé pendant tant d'années, par exemple, avec des personnes qui souffrent, c'est pas une maladie, mais du coup, qui sont autistes, ou alors peut-être dans un domaine avec des personnes dépendantes d'alcool, d'autre chose. Donc là, il y a des DU pour tout ça. Donc en fait, c'est de dire, même si ces personnes n'ont pas le bac, est-ce que l'expérience peut permettre, en fait, d'accéder à ces DU ? Et ça, je sais pas du tout, hein. C'est ça que je demande.
Après, je dirais, ça dépendra des conditions d'admission de ces formations.
Il faut un certain niveau. Hein.
Je pense, oui.
Il faut au moins le bac, voire même plus, je pense.
Je suis pas sûre que ça soit... Enfin, il y a peut-être, voilà, des prérequis en termes de niveau d'études. Est-ce que l'expérience prévaut sur le niveau d'études ? Je ne sais pas.
On posera la question. Merci en tout cas. Voilà.
Merci à vous pour la formation AES et on vous laisse accueillir les nombreux visiteurs à la Croix-Rouge Compétences aujourd'hui, 29 janvier, pour cette journée porte ouverte. Merci, à bientôt.
À bientôt.